Chapitre 24. Washington DC, samedi 27 décembre 1980. Saul Lasky gisait dans sa tombe d'acier et pensait à la vie. Frissonnant sous l'effet de la climatisation, il se mit en chien de fusil et essaya de se rappeler les détails d'un matin de printemps dans la ferme de son oncle. Il pensa à la lumière dorée qui caressait les lourdes branches des saules pleureurs et aux champs de pâquerettes blanches derrière la forteresse de pierre qu'était la grange de son oncle. Saul avait mal. Son bras et son épaule gauche ne cessaient de le faire souffrir. Une douleur lancinante lui taraudait le crâne. Des picotements lui agaçaient les doigts et la saignée de son bras droit portait encore les stigmates de toutes les injections qu'on lui avait faites. Saul accueillait la douleur avec joie et l'encourageait à persister. La douleur était son seul point de repère, un phare perçant l'épais brouillard où l'avait plongé la drogue. Saul avait perdu toute notion du temps. Il en avait vaguement conscience, mais ne pouvait rien faire pour y remédier. Toutes les séquences étaient bien là, du moins jusqu'à l'instant de l'explosion dans le bureau des sénateurs, mais il n'arrivait pas à en reconstituer l'ordre. À un moment donné, il se retrouvait étendu dans le froid glacial de sa cellule. Étroite couchette encastrée dans le mur, grille d'arrivée d'air, bancs et toilettes en acier, porte métallique coulissant dans le mur. Et l'instant d'après, il essayait de se blottir dans la paille froide, sentant l'air glacé de la nuit polonaise s'insinuer à travers les vitres brisées, et savait que l'Oberst et les gardes allemands viendraient bientôt le chercher. La douleur était un phare. C'était à la douleur qu'il devait ses rares instants de lucidité lors des premiers jours qui avaient suivi l'explosion. L'intense douleur lorsqu'on avait réduit sa fracture de la clavicule, des masques de chirurgien dans un lieu aseptisé qui pouvait être n'importe quelle salle d'opération, n'importe quelle chambre d'hôpital, puis le choc glacé des corridors blancs et de la cellule d'acier, les hommes en costume de ville, un badge bariolé accroché à leur revers, la douleur de l'injection, suivie de rêves et d'instants éclatés. Le premier interrogatoire avait été douloureux. Deux hommes. Le premier chauve, le second blond et coiffé en brosse. Le chauve avait tapé sur l'épaule de Saul avec une matraque en métal. Saul avait hurlé, pleuré de douleur, mais il avait accueilli cette douleur avec joie. Brouillard et vapeur s'étaient dissipés. « Savez-vous qui je suis ?» demanda le chauve.
« Non. »«
Que vous a dit votre neveu ?»«
Rien. » »«
À qui d'autre avez-vous parlé de William Borden et des autres ?»«
À personne. »
Plus tard, ou plutôt Saul n'en était pas sûr, toute douleur disparue, au sein de la brume lénifiante qui suivait l'injection. « Savez-vous qui je suis ?»«
Charles C. Colben. » Assistant spécial du directeur délégué du FBI.
Qui vous a dit cela?
Aaron.
Que vous a dit Aaron à part cela? Saul répéta leur conversation de façon aussi exhaustive que possible. Qui d'autre est au courant en ce qui concerne Willie Borden?
Le shérif, la fille.
Saul expliqua qui étaient Gentry et Nathalie. Dites-moi tout ce que vous savez. Saul s'exécuta. Brouillard et rêve. Rêve et brouillard. Saul redécouvrait fréquemment la cellule d'acier en ouvrant les yeux. La couchette encastrée dans le mur. Les toilettes trop petites et dont on ne pouvait pas tirer la chasse. Celles-ci se déclenchaient automatiquement à intervalles irréguliers. Des plateaux repas en acier apparaissaient pendant que Saul était endormi. Il mangeait assis sur le banc en acier. Il laissait le plateau. Celui-ci avait disparu à son réveil. De temps en temps, des hommes en blouse blanche ouvraient la porte métallique et lui faisaient une piqûre, ou le conduisaient le long des corridors blancs vers une pièce minuscule où il s'asseyait en face d'un miroir. Colben, ou un autre homme vêtu de gris, lui posait des questions. S'il refusait d'y répondre, on lui faisait une nouvelle injection. Et il rêvait qu'il souhaitait désespérément se lier d'amitié avec ses tortionnaires et leur dire tout ce qu'il voulait entendre.
Il sentit à plusieurs reprises que quelqu'un, Colben, s'insinuait dans son esprit et se rappelait un viol similaire survenu 40 ans plus tôt. Ces moments étaient rares. Les injections étaient fréquentes. Saul allait et venait dans le temps. Il appelait sa sœur Stepha dans la ferme d'oncle Moshe. Il courait pour rattraper son père dans le ghetto de Lotz. Il pelletait de la chaux sur les corps gisant dans la fosse. Il buvait de la citronnade et parlait avec Gentry et Nathalie. Il jouait avec Aaron et Isaac, ses neveux de 10 ans, dans la ferme de David et de Rebecca près de Tel Aviv. Le puzzle temporel induit par la drogue s'assembla. Le temps reprit son cours normal. Saul se recroquevillait sur le matelas nu. Il n'avait pas de couverture et l'air provenant de la grille était glacé, et pensait à sa vie et à ses mensonges. Il s'était menti pendant des années. Sa quête de l'Oberst était un mensonge, une excuse pour ne pas agir. Sa carrière de psychiatre était un mensonge, une façon de mettre son obsession à distance en la théorisant. Sa participation en tant que médecin à 3 guerres israélo-arabes était un mensonge, une façon d'éviter l'action directe. Saul gisait dans le No Man's Land gris, séparant le nirvana induit par la drogue de la douloureuse réalité, et percevait la vérité de sa vie de mensonge. Il s'était menti à lui-même en se trouvant des raisons pour parler de Nina et de Willie au shérif de Charleston et à la jeune Preston. Il espérait secrètement qu'ils allaient agir, qu'ils libéraient ses épaules du fardeau de la responsabilité et de la vengeance. Si Saul avait demandé à Aaron de rechercher Francis Harrington, ce n'était pas parce qu'il était trop occupé pour le faire, mais parce qu'il désirait secrètement qu'Aaron et le Mossad fassent ce qui devait être fait. Il savait à présent que s'il avait parlé de l'Oberst à Rebecca 20 ans plus tôt, c'était dans l'espoir secret qu'elle en parlerait à David, et que David, cet israélo-américain puissant et efficace, prendrait l'affaire en main. Saul frissonna, ramena ses genoux contre sa poitrine et contempla sa vie de mensonge. À l'exception de quelques rares instants, tel celui où il avait résolu de tuer plutôt que de se laisser emporter dans la nuit de Helmno, toute sa vie avait été un hymne à la gloire du compromis et de l'inaction. Les puissants semblaient l'avoir perçu. Il comprenait à présent que ce n'était ni par hasard ni grâce à la chance qu'on l'avait affecté à la fosse de Helmno et à la gare de Sobibor. Les ordures qui le tenaient entre leurs mains avait senti que Saul Lasky était un capot né, un collaborateur, quelqu'un que l'on pouvait utiliser en toute sécurité. Cet homme-là était incapable de devenir violent, de se révolter, de sacrifier sa vie pour les autres, incapable même de sauver sa propre dignité. Même lorsqu'il s'était évadé de Sobibor et du terrain de chasse de l'Oberst auparavant, cela avait été par accident. Il s'était laissé porter par les événements. Saul quitta sa couche et tituba jusqu'au centre de la petite cellule d'acier. Il portait une combinaison grise. On lui avait pris ses lunettes, et les surfaces de métal autour de lui étaient floues et dénuées de substance. Son bras gauche avait été libéré de son écharpe. Il le remua légèrement, et la douleur lui transperça l'épaule et le cou. Une douleur violente qui lui éclaircit l'esprit. Il remua encore le bras, le remua encore. Saul alla jusqu'au banc en acier et s'effondra dessus. Gentry, Nathalie, Aaron et sa famille, ils étaient tous en danger. Mais qui leur en voulait? Saul baissa la tête, saisi par le vertige. Pourquoi avait-il été stupide au point de croire que Willie et les deux vieilles dames étaient les seules personnes douées de ce terrible pouvoir? Combien d'autres créatures avaient le même talent et les mêmes pulsions que l'Oberst? Saul eut un rire rauque. Il avait enrôlé Gentry, Nathalie et Aaron, sans même avoir élaboré une esquisse de plan pour régler le cas du seul Oberst. Il avait vaguement imaginé un piège quelconque, l'Oberst pris par surprise, les alliés de Saul protégés par leur anonymat. Et ensuite? Le bruit des petits Beretta calibre 22 du Mossad? Saul s'adossa au mur de métal glacé, colla sa joue contre l'acier. Combien de personnes avait-il sacrifiées par sa lâcheté et son inaction?
Stepha, Yosef, ses parents, presque certainement le shérif et Nathalie, Francis Harrington.
Saul poussa un gémissement en se remémorant le Auf Wiedersehen prononcé d'une voix gutturale dans le bureau de Trask et l'explosion qui avait suivi. Une seconde avant, l'Oberst lui avait fait entrevoir la scène par les yeux de Francis, et Saul avait perçu la présence terrifiée de l'esprit du jeune homme, prisonnier dans son propre corps, attendant l'inévitable sacrifice. C'était Saul qui l'avait envoyé en Californie. Et il y avait ses deux amis, Selby White et Dennis Leland, deux nouvelles victimes sur l'autel de la couardise de Saul Lasky. Saul ignorait pourquoi. Cette fois-ci, on laissait l'effet de la drogue se dissiper dans son organisme. Peut-être en avait-on fini avec lui. La prochaine fois qu'on viendrait le voir, ce serait pour l'exécuter. Il s'en fichait. La rage parcourait son corps meurtri comme un courant électrique. Il agirait avant que l'inévitable balle ne percute son crâne. Il blesserait quelqu'un en représailles. En cet instant, Saul aurait sacrifié sa vie avec joie pour pouvoir prévenir Aaron et les deux autres, mais il aurait donné toute leur vie pour pouvoir se venger de l'Oberst, de tous ces fumiers pleins d'arrogance qui régnaient sur le monde et se gaussaient de la douleur des êtres humains qu'ils utilisaient comme des pions. La porte s'ouvrit avec fracas. Trois hommes massifs vêtus de blouses blanches entrèrent. Saul se leva, s'avança vers eux en titubant, lança un poing qui pesait des tonnes vers le visage du plus proche.
« Hé !»
dit le colosse en riant, saisissant le bras de Saul et le tordant dans son dos.
« Le vieux juif veut s'amuser avec nous. »
Saul se débattit, mais le colosse le tenait dans sa poigne comme s'il n'avait été qu'un enfant. Saul essaya de ne pas pleurer lorsqu'un deuxième homme lui releva la manche de sa veste.
« Il va nous quitter !»
dit le troisième homme en enfonçant la pointe de la seringue dans le bras émacié et meurtri de Saul.
« Bon voyage, le vieux !»
Ils attendirent 30 secondes, le relâchèrent et s'écartèrent. Saul les suivit en vacillant, les poings serrés. Il sombra dans l'inconscience avant que la porte ne se soit refermée. Il rêva qu'il marchait, qu'on l'emmenait quelque part. Il y eut un bruit de réacteur et une odeur de fumée de cigare. Il marcha à nouveau, soutenu par des mains robustes. La lumière était éblouissante. Lorsqu'il ferma les yeux, il entendit le clic-clic-clic des roues du train qui le conduisait à Halmno. Saul revint à lui dans un siège confortable à l'intérieur d'un véhicule indéfini. Il entendait un battement régulier, mais il lui fallut plusieurs minutes pour reconnaître le bruit des pales d'un hélicoptère. Il avait les yeux fermés. Un oreiller était placé sous sa tête, mais son visage était collé à une surface de verre ou de plexiglas. Il sentit qu'il était habillé et qu'il portait à nouveau des lunettes. Des hommes parlaient à voix basse, et on entendait de temps en temps le grésillement d'une radio. Saul garda les yeux fermés, rassembla ses esprits et espéra que ses geôliers ne remarqueraient pas que la drogue avait presque cessé d'agir.
« Nous savons que vous êtes réveillé, »
dit un homme tout proche de lui. Sa voix était étrangement familière. Saul ouvrit les yeux, releva péniblement la tête et ajusta ses lunettes. Il faisait nuit. Il se trouvait en compagnie de trois hommes dans la cabine passager d'un hélicoptère d'un modèle sophistiqué. Le tableau de bord éclairait le pilote et le copilote d'une lueur écarlate. Assis à sa gauche, son attaché caisse sur les genoux, l'agent spécial Richard Haynes lisait des papiers à la lueur de la veilleuse. Saul s'éclaircit la gorge et s'humecta les lèvres, mais avant qu'il ait pu prononcer un mot, Haynes dit
« Nous allons atterrir dans une minute, tenez-vous prêts. »
L'agent du FBI avait un bleu au menton. Saul réfléchit à quelques questions pertinentes, les chassa de son esprit. Il baissa les yeux et s'aperçut que son poignet gauche était relié à la main droite de Haynes par une paire de menottes.
« Quelle heure est-il »
demanda-t-il d'une voix qui se réduisait plus ou moins à un croassement.
Environ 10 heures.
Saul jeta un regard vers les ténèbres et supposa qu'il faisait nuit.
« Quel jour sommes-nous ?»«
Samedi, »
grommela Haines avec un petit sourire.
« Quelle date ?»
L'agent du FBI hésita, eut un léger haussement d'épaule.
« Le 27 décembre. »
Saul ferma les yeux sous d'un pris de vertige. Il avait perdu une semaine de sa vie. Cela lui avait paru plus long. Son bras et son épaule gauche lui faisaient atrocement mal. Il baissa les yeux et s'aperçut qu'il était vêtu d'un costume sombre, d'une chemise blanche et d'une cravate noire. Ses vêtements ne lui appartenaient pas. Il ôta ses lunettes. Les verres étaient corrects, mais la monture était neuve. Il examina les 5 hommes avec attention. Il ne reconnut que Haines.
« Vous travaillez pour Colben ?»
dit Saul. Comme l'agent ne répondait pas, il poursuivit.
« Vous êtes descendu à Charleston pour vous assurer que la police locale resterait dans l'ignorance de ce qui s'était vraiment passé. C'est vous qui avez subtilisé l'album de Nina Drayton à la morgue. »«
Attachez bien votre ceinture, » dit Haines. « Nous atterrissons. »
C'était un des plus beaux spectacles que Saul ait jamais vu. Il crut tout d'abord qu'il voyait un paquebot brillant de tous ses feux, silhouette blanche au milieu des ténèbres, laissant derrière elle un sillage phosphorescent sur l'eau vert sombre. Mais lorsque l'hélicoptère descendit vers la croix orange peinte sur le pont arrière, Saul se rendit compte qu'il s'agissait en fait d'un navire privé, d'un yacht blanc au profil superbe, aussi long qu'un terrain de football. Des hommes d'équipage guidèrent leur descente en agitant des bâtons lumineux, et l'hélicoptère se posa en douceur à la lueur des projecteurs. Les 4 passagers s'éloignaient déjà de l'appareil, alors que ses rotors n'avaient pas encore commencé à ralentir. Plusieurs marins vêtus de blanc les rejoignirent. Lorsqu'ils purent relever la tête, Haines enleva les menottes qu'il attachait à Saul et les empocha. Saul se frotta le poignet, juste au-dessous de l'endroit où des chiffres bleus y étaient tatoués.
« Par ici !»
La procession se dirigea vers le pont supérieur, puis vers la proue, empruntant de larges coursives. En dépit de l'absence de roulis, Saul avait du mal à marcher. Haines l'empêcha de tomber à 2 reprises. Saul inspira un air tropical, lourd et moite, chargé d'une lointaine odeur de végétation, et remarqua l'opulence des cabines, des salons et des bars qui se trouvaient sur leur chemin. Tout était lambrissé et moqueté, décoré avec goût et rehaussé de cuivre et d'or. Ce vaisseau était un 5 étoiles flottant. Ils passèrent près de la passerelle de commandement, et Saul aperçut des hommes en uniforme, l'éclat vert des consoles électroniques. Un ascenseur les conduisit dans un salon privé muni d'une loggia, mais peut-être le terme de « passerelle volante » était-il plus approprié. Un homme vêtu d'un costume blanc d'aspect coûteux y était assis, un grand verre à la main. Saul aperçut une île derrière lui à environ 1 mile nautique de distance. La végétation foisonnante était décorée de 100 de lanternes japonaises, les sentiers éclairés par des lueurs brillantes, la longue plage illuminée par 20 torches et, dressée au-dessus de la Seine, étincelant à la lueur des projecteurs, Saul pensa au meeting de Nuremberg durant les années 30, un château aux murailles de bois et aux toits de tuiles semblait flotter en haut d'une falaise blanche.
« Savez-vous qui je suis ?»
demanda l'homme assis sur la chaise longue. Saul le regarda en plissant les yeux.
« On tourne une publicité pour une carte de crédit ?»
Haines lui donna un coup de pied dans les jambes, le faisant tomber sur le sol.
« Vous pouvez nous laisser, Richard. »
Haines et les autres s'en furent. Saul se releva péniblement.
« Savez-vous qui je suis ?»«
Vous êtes C. Arnold Barent, »
dit Saul. Il s'était mordu la joue. Dans son esprit, le goût de son propre sang se mêlait aux senteurs de la végétation tropicale.
« Personne ne semble savoir ce que veut dire le C. »«
Christian, »
dit Barent.
Mon père était un homme très dévot, et aussi une manière d'ironiste.
Il désigna une chaise toute proche.
« Asseyez-vous, je vous en prie, docteur Lasky. »
« Non. »
Saul se dirigea vers la balustrade de la loggia, de la passerelle, peu importait. L'eau formait un arc d'écume blanche 10 mètres plus bas. Saul s'agrippa à la balustrade et se retourna vers Barent.
« Ne prenez-vous pas un risque en restant seul avec moi ?»«
Non, docteur Lasky, » dit Barent. « Je ne prends jamais de risque. » Saul indiqua du menton le château qui brillait dans le lointain.
« C'est à vous ?»«
À la fondation. » Barent avala une longue gorgée de sa boisson fraîche.
« Savez-vous pourquoi vous vous trouvez ici, docteur Lasky ?»
Saul ajusta ses lunettes.
« Monsieur Barent, je ne sais même pas où se trouve ici, ni même pourquoi je suis encore en vie. »
Barent hocha la tête.
« Votre seconde remarque est la plus pertinente. Je présume que votre organisme est suffisamment purgé de substances médicinales pour que vous puissiez tirer vos propres conclusions à ce sujet. »
Saul se mordilla la lèvre inférieure. Il se rendit compte à quel point il était faible, à moitié mort de faim, en partie déshydraté. Il faudrait certainement plusieurs semaines à son organisme pour se purger de la drogue qu'on lui avait administrée.
« Vous pensez que je suis votre chemin vers l'Oberst, j'imagine »
dit-il. Barent éclata de rire.
« L'Oberst, comme c'est pittoresque. C'est ainsi que vous pensez à lui, j'imagine, étant donné votre relation particulière. Dites-moi, docteur Lasky, les camps étaient-ils aussi horribles que le prétendent les médias? Je les ai toujours soupçonnés de vouloir exagérer un peu la réalité, peut-être de façon subliminale, pour expier une sorte de culpabilité inconsciente, peut-être. »
Saul l'examina avec attention. Il détailla son hâle impeccable, sa veste de sport en soie, ses sandales de chez Gucci, l'améthyste à son auriculaire. Il ne répondit pas.
« Peu importe, » reprit Barent. « Vous avez raison, bien sûr. Si vous êtes encore en vie, c'est parce que vous êtes le messager de M. Borden et parce que nous souhaitons ardemment parler à ce monsieur. »
« Je ne suis pas son messager, »
dit Saul d'une voix atone. Barent agita sa main manucurée.
« Son message, alors? La différence est minime. »
On entendit une série de carillons et le yacht prit de la vitesse, obliqua à bâbord comme pour entamer un tour de l'île. Saul aperçut un vaste quai éclairé par des lampes à vapeur de mercure.
« Nous aimerions que vous transmettiez un message à M. Borden, » poursuivit Barent. « Je ne risque pas d'y parvenir si vous continuez à me droguer et à me garder enfermé dans une cellule en acier. »
Pour la première fois depuis l'explosion, Saul sentait l'espoir renaître en lui.
« C'est exact. Nous allons nous arranger pour que vous ayez l'occasion de le retrouver en un lieu qu'il aura lui-même choisi.
Vous savez où se trouve l'Oberst ?
Nous savons où il a choisi d'opérer.
Si je le vois, dit Saul. « Je le tue. »
Barent eut un rire aimable. Sa denture était parfaite.
« C'est fort improbable, docteur Lasky. Néanmoins, nous vous serions reconnaissants de lui transmettre notre message. »
Saul inspira profondément l'air marin.
Il ne voyait pas pour quelle raison Barent et son groupe souhaiteraient lui confier des messages à transmettre. Pour quelle raison on lui permettrait de conserver son libre arbitre et ne parvenait pas à imaginer pourquoi on le laisserait en vie une fois qu'il aurait rempli sa mission.
Il se sentait étourdi et légèrement grisé.
« Quel est votre message ? Dites à Willie Borden que le club serait honoré s'il acceptait d'occuper le siège laissé vacant au comité de direction. »
« C'est tout ?
Oui. Voulez-vous boire ou manger quelque chose avant de partir ?»
Saul ferma les yeux durant une minute. Il sentait les mouvements du navire le long de ses jambes, au creux de son bassin. Il s'accrocha à la balustrade et ouvrit les yeux.
« Vous n'êtes pas différent d'eux, » dit-il à Barent.
« De qui ?
Des bureaucrates, des commandants, des fonctionnaires reconvertis en commandos des Einsatzgruppen, des conducteurs de train, des industriels de la IG Farben et des gros sergents puant la bière qui s'asseyaient au bord de la fosse. Barent resta songeur un moment.
« Non, » dit-il finalement.
« Je suppose que nous sommes tous pareils, en fin de compte. Richard, veuillez reconduire le docteur Lasky, s'il vous plaît. »
Ils prirent l'hélicoptère pour se rendre à l'aérodrome de Lille, où ils embarquèrent dans un jet privé qui prit la direction du nord-ouest alors que le ciel pâlissait derrière eux. Saul s'assoupit pendant une heure avant l'atterrissage. C'était son premier somme naturel depuis une semaine. Haynes le secoua pour le réveiller.
« Regardez !» dit-il.
Saul contempla la photographie. Aaron, Déborah et les enfants étaient ligotés, mais de toute évidence vivants. Le fond blanc ne donnait aucun indice sur l'endroit où ils se trouvaient. Le flash avait parfaitement saisi les yeux écarquillés et l'expression paniquée des fillettes. Haynes lui tendit un petit magnétophone à cassette.
« Oncle Saul, » dit la voix d'Aaron, « je t'en prie, fais ce qu'ils te demandent. Ils ne nous feront aucun mal si tu leur obéis. Respecte leurs instructions et nous serons libérés. Je t'en prie, oncle Saul. »
L'enregistrement cessa net. « Si vous essayez de les retrouver ou de contacter l'ambassade, nous les tuerons, » murmura Haynes. Deux des agents étaient endormis. « Faites ce qu'on vous dit. Et il ne leur sera fait aucun mal. Vous avez compris ?»«
J'ai compris, » dit Saul.
Il colla son visage au plastique glacé de la vitre. Il descendait vers le centre d'une grande ville américaine. Saul aperçut à la lueur des réverbères des immeubles en briques et des flèches blanches entre des tours de bureaux. Il sut à cette seconde qu'il n'y avait plus aucun espoir pour lui et les siens.